Vous écoutez
RMC.
Pauline Ferrand-Prévot qui va donner les derniers coups de pédale. Et la voilà, elle vient de passer la ligne d'arrivée, les bras en l'air et le sourire évidemment de Pauline Ferrand-Prévot qui s'adjuge l'étape reine aujourd'hui au col de la Madeleine. Mais surtout, elle endosse ce maillot jaune avec des écarts monstrueux. Plus de 2 minutes d'avance, Pauline Ferrand-Prévot, seule au monde, reine de ce Tour de France femme. Aujourd'hui, c'était elle la plus grande. C'est une géante de ce sport français, Pauline Ferrand-Prévot, qui s'impose ici au col de la Madeleine.
Oh, il finit sur un passif de coup droit, Carlos Alcaraz. Cette finale mythique,
c'est incroyable.
S'achève sur un winner. Il a déjà serré la main de l'arbitre, winner, et il va aller vers son adversaire, vers son bourreau. Alcaraz remporte Roland après avoir sauvé 3 balles de match. La plus belle finale de l'histoire de Roland Garros. On vient de la vivre sous vos yeux. C'est insensé ce qui s'est passé. Carlitos, c'est magique. C'est insensé. C'est beau. Seul le tennis peut nous procurer de telles émotions.
Thomas Ramos qui s'élance. Vous entendez la sirène, à moins qu'il la loupe, mais ça prend pas le chemin. Le ballon qui passe entre les paires.
Et c'est Bastien Toulouse qui a gagné.
Bastien Toulouse, champion de France, cette génération est inarrêtable. Le triplé pour Toulouse. Victoire 39 à 33. Comme toujours en finale, le Stade Toulousain est le roi.
Vous m'avez fait sentir comme un Français de plus. Je ne pourrai plus jouer devant vous. Mais mon cœur et mes souvenirs resteront toujours liés à ce lien magique et à son peuple.
Pour la belle passe de Vitinha pour Doué. Doué, le but, le but.
Avec la frappe arrivée derrière, le côté. Le contrôle pour Mayoulou. Mayoulou, la frappe au poteau. Oh là 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 là. C'est la fête. C'est la fête qui gagne. C'est terminé. C'est fini. Paris sur le toit de l'Europe. 14 ans d'attente pour les propriétaires qataris. 32 ans après Marseille. Le football français remporte une deuxième Ligue des Champions. Et peut-être ça fait du bien.
Putain, ça fait du bien. Dixit Jeannot et Séguier. Une année 2025.
Pas qu'on était les journalistes d'RTL.
On salue Jeannot, évidemment. Oui. Journaliste émérite d'AMC pendant des années, des décennies même. Une année 2025 donc riche en rebondissements pour le sport français et pour le sport en général. D'ailleurs, chacun aura ses moments marquants et on déterminera ensuite celui qui aura le plus marqué l'année 2025. Vous êtes nombreux aussi à nous envoyer des messages. On lira aussi tout ça après pour voir ce qui vous a le plus marqué. Christophe, sur quoi tu voulais revenir, toi ?
Moi, je voulais revenir. Alors, sur une course, j'ai cherché une course cycliste.
Étonnant.
Le Tour de France, bon, c'était bien, mais c'était pas non plus
un suspense total
par terre. Non, en fait, la course pour moi qui a été la plus excitante en 2025, c'est une course que Pogacar n'a pas réussi à gagner. C'est quand même assez rare, hein, d'en trouver.
Fallait la trouver déjà.
Voilà. C'est une course qu'on baptise l'Enfer du Nord et que une fois l'an, au mois d'avril, secouent les coureurs, leur trip et leur vélo sur 259 kilomètres, dont 55 kilomètres sur
les
fameux pavés de l'enfer. Une véritable saloperie, c'est comme ça que l'appelait Bernard Hinault en son temps, qui avait quand même tenu à remporter cette course avec le maillot de champion du monde sur les épaules. C'était en 81. Depuis, cette course dangereuse et difficile n'avait jamais plus réussi à attirer dans ses filets les hommes du mois de juillet, les poids légers, plus à l'aise en montagne que sur les pavés, et qui ne voulaient surtout pas risquer la suite de leur saison sur une mauvaise chute dans les pavés de Paris-Roubaix. Mais en 2025, un champion, le champion de tous les champions, a voulu relever le défi et essayer de battre sur son terrain le roi des classiques flandriennes, un certain Mathieu Van Der Poel, le seul coureur encore capable de tenir tête à la toute puissance de Poggi. Et cela a donné lieu à une bagarre d'anthologie. C'était le 13 avril dernier entre Compiègne et Roubaix. Jamais sans doute Paris-Roubaix depuis 20-30 ans n'avait suscité un tel engouement avant le départ de la course et on n'a pas été déçus. On a assisté à une course incroyable qui s'est décomptée dès la trouée d'Arambert, où les deux hommes se sont livrés à mano incroyable, et où l'expérience, le manque d'expérience de Pogacar lui a été préjudiciable, puisque dans un virage à droite, eh ben il a fait tout droit, Poggy. Et oui, il faut savoir conduire, piloter son vélo quand on fait Paris-Roubaix, chose que fait à merveille Mathieu Van Der Poel, mais que Pogacar ne savait pas encore faire. Et du coup, eh ben il a laissé s'envoler le Néerlandais, il l'a plus jamais vu jusqu'à la ligne d'arrivée. Ça a été un moment incroyable, parce que voir Pogacar battu à la régulière, c'est rare. Et ça l'a tellement énervé qu'il a fait de Paris-Roubaix 2026 son objectif principal. Il veut gagner Paris-Roubaix plus que le Tour de France, plus que le championnat du monde, parce que quand on est un champion de sa trempe et qu'on a été battu une fois, on ne rêve que d'une chose, c'est prendre sa revanche. Donc vivement le 12 avril prochain.
Ça, on sent que vraiment les soucis des gens qui gagnent tout, c'est-à-dire que s'il y a un titre qui leur échappe, ils vont en faire une obsession.
Ça va, t'es tranquille toi.
Ah bah oui, moi j'avais beaucoup de cases à cocher encore. Hein, donc.
Mais on sent encore, Chris, quand tu le racontes, que t'as encore plein d'émotions. On l'a vécu évidemment sur RMC aussi avec toi. Il y avait, tu le disais aussi, énormément d'attractions, parce que Pogacar, à chaque fois qu'il est là, de toute façon, c'est une attraction, mais encore plus sur une course où d'habitude, bah oui, il ne s'aligne pas.
Parce que les hommes du mois de juillet ne viennent pas sur Paris-Roubaix. On ne verra jamais Vingegaard, qui a quand même gagné deux fois le Tour de France. On n'a jamais vu Chris Froome, qui l'avait gagné quatre fois. Tous les grands champions depuis Bernard Hinault ont évité Paris-Roubaix, parce que on dit que c'est une course très dangereuse. C'est vrai que tu te fais secouer la poire tellement pendant 250
km. On se demande un peu
kilomètres.
Qui a eu l'idée quand même, hein, parce que pourquoi les rouler sur des pavés avec
mais en fait c'est une course héritée du passé. À l'époque,
non, mais après nous on l'aime bien, c'est
même,
vraiment
même après guerre, même après la première guerre mondiale et la deuxième guerre mondiale, les routes en France étaient loin d'être ce qu'elles sont aujourd'hui, et c'était l'apogée de la course cycliste à l'époque. Et mais effectivement les mecs roulaient sur des pistes, ils roulaient en montagne sur de la terre battue, avec des caillasses qui leur tombaient sur le coin de la tête. Les routes françaises dans l'état dans lequel elles sont aujourd'hui, c'est quand même assez récent. Et donc c'était pendant un temps, Paris-Roubaix n'était même pas une course à pavés, c'est-à-dire que les pavés, on est allé les chercher dans les chemins, paysans pour en faire une course cycliste. Donc c'est une course
qui est devenue mythique aujourd'hui et qui est le Graal pour beaucoup de coureurs cyclistes. Alice et Fred, convaincus par Christophe ou pas?
C'est drôle la vie quand même, parce que je pensais.
Alors là, tu réponds pas du tout à la question.
En fait, je commence. C'est drôle la vie, parce qu'il y a 10 minutes, parce qu'il a commencé au moins il y a 10 minutes, Christophe. J'étais pas du tout convaincu.
On a une grande gueule en moins, donc il faut faire un peu.
Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est que je pensais pas du tout à cette course. Effectivement, ça avait marqué les esprits, parce que tout le monde se disait, Pogacar sur cette course, c'est incroyable. Sauf que quand Christophe te la raconte, tout le monde s'est tué sur le plateau. Tout le monde était comme ça. Et je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas choisi ça finalement? Alors, après j'ai compris.
Très gros compliment.
J'avais pas le talent d'orateur de Christophe. C'est pour ça que j'ai pas choisi. Mais c'était magnifique. Et effectivement, c'est vrai que ça nous a donné les frissons de voir Pogacar ne pas gagner. Se dire que l'année prochaine, il va être chaud comme la braise. Donc, oui.
Il y avait de la dramaturgie.
Comme d'habitude, un bon choix de Christophe, c'est sûr.
Convaincu. Alizé aussi, t'es convaincu. Parfait. Chris, t'étais très fort. Et qui sont tes arguments pour
ton deuxième événement?
C'est ça. Fred, tu vas essayer de faire aussi bien quand
possible.
Même que Christophe, mais il faut que tu sois passionné. Qu'est-ce qui t'a fait vibrer dans cette année 2025?
Moi, ce qui m'a fait vibrer, c'est très parisien, c'est surprenant, parce que moi je viens de Limoges quand même. et en fait, ce qui s'est passé avec ce PSG-là, moi j'ai trouvé ça fantastique. Parce que je viens de cette génération où Marseille avait gagné, et qu'on attendait depuis des années et des années et des années qu'on puisse gagner une Ligue des Champions. On attendait surtout que qu'une équipe nous fasse vibrer, parce que ça joue collectif, parce qu'il n'y a pas une tête qui dépasse, même si Ousmane Dembélé a dépassé un petit peu ce jeu collectif, cette équipe, cet esprit d'équipe, cette capacité à aller très loin, à nous faire rêver, à nous faire sentir parisiens tous. Et encore une fois, je me répète, je ne suis pas du tout parisien.
Mais ça a fédéré
tout le monde, parce que leur jeu, parce que leur façon d'être, parce que le plaisir qu'on prenait sur le terrain, et parce que cette deuxième Ligue des Champions. Et donc, honnêtement, moi, ce Paris m'a fait rêver. Moi, j'aime les sports qui rassemblent, et forcément, le sport, ça rassemble encore plus quand tu gagnes, évidemment. Mais l'attitude de cette équipe était plaisante. Les voir jouer, c'était plaisant. Les voir performer, c'était présent. Et donc, je me dis que même les Marseillais, je pense qu'ont aimé ce moment. Alors, à un moment dans leur cœur, je pense qu'ils ont été déchirés, un petit peu, forcément. Mais il faut qu'ils se rappellent d'un truc. À jamais les premiers. Les premiers, c'est toujours plus important que quoi que ce soit.
Ils auraient bien aimé rester les seuls, surtout.
Évidemment, mais en tant que Français, moi, j'ai ressenti une fierté. Encore une fois, c'est le sport le plus mondial qui existe, et je trouve que ça rassemblait tellement de personnes différentes, et surtout quand on parle à un basketteur comme moi qui est vraiment plus passionné par le basket que les autres sports, bah, ça a réussi à m'emporter. J'avais envie de voir les résultats du PSG. J'avais envie de les voir jouer. J'avais envie de les voir performer. Donc, moi, ça m'a vraiment marqué cette épopée parisienne, vraiment.
Et avec Ousmane Dembélé aussi.
Et avec Ousmane Dembélé, ballon d'or, évidemment. Et
ça, Ousmane, ballon d'or.
C'est vrai que ça a été un moment magique, mais moi j'ai été un peu déçu par la finale, parce que une finale, t'as envie que ce soit serré, t'as envie de vibrer jusqu'à la fin, tu vois.
Après, les finales, c'est toujours
un peu tendu. J'ai envie d'écraser les autres, j'ai envie de les écraser, c'était magnifique.
Ah ouais, mais bon, moi j'aurais préféré un match serré avec la victoire. Je veux dire, par exemple, la dernière finale, même si ça s'est pas conclu du bon côté pour nous, mais la dernière finale de la Coupe du Monde, elle a suscité beaucoup plus de
scénario.
De tension.
Oui, mais Christophe, tu pouvais imaginer qu'une équipe française soit aussi dans la domination que ce qu'on a vu ça, là. Est-ce que la fierté est pas plus... Alors, je comprends la dramaturgie de la finale et même de certains matchs, j'entends ce que tu dis. Mais après, se dire qu'une équipe française a réussi à dominer à ce point une compétition qui nous fuyait depuis autant d'années, bah, je trouve ça magnifique.
C'est qu'aujourd'hui, le PSG est vu comme la meilleure équipe.
C'est le parcours.
Le parcours du Paris Saint-Germain, c'est le chemin extraordinaire. Mais la finale m'a pas suscité plus que...
C'était pas la conclusion qui te faisait vibrer.
J'aurais voulu qu'il gagne à la 90e minute.
Ça aurait pu être la cerise sur le gâteau, mais ça n'a été que la confirmation entre guillemets de l'épopée. C'était déjà
une cerise, c'était un pamplemousse, quoi.
C'est à dire qu'on a pu fêter dès le début quasiment, parce que c'est génial.
On a Sylvain au 32-16 qui est avec nous ce matin et qui est d'accord avec toi, Fred, pour revenir sur cette victoire du PSG. Salut Sylvain.
Ouais, bonjour à tous.
Bonjour.
Miracle de Noël, pour une fois je suis d'accord avec Fred Weiss. C'est très rare.
C'est magnifique, tu vois comme quoi ça peut arriver.
C'est un miracle de Noël, mon cher Fred.
Joyeux Noël à toi.
Non, mais c'est vrai qu'on attendait ça depuis plus de 30 ans qu'un club français gagne la Ligue des Champions. Et là, enfin, ça a arrivé. On a le Paris Saint-Germain, le plus grand club de France. Bon, évidemment, je suis supporter parisien depuis plus de 30 ans, donc...
Ça s'entend pas du tout.
Voilà, évidemment. Donc, enfin, un club français gagne la Ligue des Champions. Combien de fois j'ai entendu des consultants, des journalistes dire « Quand un club français va gagner la Ligue des Champions ?» Ben voilà, ça y est, c'est fait cette année. 5-0 contre l'Inter, j'entendais Christophe dire tout à l'heure « Oui, mais la dramaturgie de la finale, ok, mais il y avait un club en face du PSG. Il y avait l'Inter, et l'Inter a fait une finale de merde. Oui. Donc évidemment... Pour faire un grand match, il faut deux clubs, mon cher Christophe. Donc,
T'as raison. Mais j'aurais bien voulu qu'il y ait deux clubs ce jour-là. Moi,
t'as raison.
Moi, c'est le seul truc. Après, j'étais ravi, évidemment,
pourtant,
que Paris gagne. Mais moi, ma conception du sport, c'est un truc un peu disputé où t'as vraiment une bagarre entre les deux. Et ce jour-là, le match en lui-même m'a pas fait bondir.
Ma conception du sport, c'est écraser les autres, c'est mieux.
C'est le truc, quoi. Mais moi, parce que moi, je suis pas supporter du PSG, donc c'est peut-être la raison pour laquelle, tu vois, je préfère. Je préfère le spectacle, je préfère le grand match et le vainqueur à la fin de main plutôt que une formalité, 5 buts,
donc alors, quoi. Si je te suis bien, Christophe, donc t'as dû t'emmerder grave autour de France.
Non, parce que figure-toi que j'étais à une fête avec plein de copains et on faisait la fête tous ensemble et il y avait une ambiance géniale. Et
autour
tout le monde,
de France,
et
il a dit.
Et on avait,
c'est le problème de Christophe, c'est qu'il n'écoute pas son lui.
On avait une copine marseillaise dans la salle qui passait devant le grand écran et qui nous faisait des doigts comme ça, qui passait et qui repassait. Donc il y avait une super ambiance.
Sylvain, est-ce qu'il y a un autre événement qui t'a marqué cette année, hormis le PSG?
Eh ben, je suis fou également de cyclisme. Donc, la victoire de Pauline Ferrand-Prévot par Paris-Roubaix autour de France féminin. Je crois que, voilà, c'est
toute la saison de Pauline Ferrand-Prévot,
Toute la saison de Pauline Ferrand-Prévot, effectivement. Après le titre olympique de 2024. Donc, voilà, c'est une grande dame du sport français. Voilà, donc, c'est ça qui m'a marqué en deuxième position. Et je dirais en troisième position, la finale de Roland-Garros masculin qui a été historique. Qui m'a fait vibrer du début à la fin. Donc voilà, je crois que c'est mes trois gros événements.
Et en quatrième position, parce que comme j'ai commencé à énumérer,
Mais on fait un petit podium, Frédéric.
On était d'accord, c'est fini. Moi, ça me va pas du tout. Je crois qu'on n'est pas d'accord, donc il faut que je lui mette un petit tiers.
Est-ce que je peux vous suggérer quelque chose, si vous me permettez 10 secondes, simplement. Pour une bonne résolution de 2026 pour les GG, ce serait bien d'inclure dans votre équipe un athlète paralympique. Je vous le dis depuis très longtemps sur le groupe WhatsApp. Dans les grandes gueules du sport, ce serait bien, ce serait cool. Moi, je suis non-voyant, je suis fou de sport Et je regrette beaucoup qu'il n'y ait pas d'athlète paralympique autour de la table.
Voilà, eh bien, la résolution est entendue et on va essayer justement de s'y tenir pour cette année 2026. Merci beaucoup Sylvain d'avoir été avec nous ce matin. C'est vrai que Pauline Ferrand-Prévot, quand même, on peut d'ailleurs parler, moi j'ai pas peur de le dire, de peut-être de l'une des meilleures athlètes françaises de l'histoire, tout simplement, parce que ce qu'elle a réalisé dans sa carrière est quand même assez incroyable. Alizée, je me tourne vers toi parce que tu es la femme autour de ce plateau avec moi, mais c'est vrai que c'est quand même assez incroyable ce qu'elle a réalisé.
Oui, et c'est pas fini. Elle est encore jeune et elle a encore beaucoup d'exploits devant elle, probablement.
Donc, et d'ambition.
C'est un très bon choix. Mmh. Et je pense que c'était l'un des choix de Sarah Pitkowski.
Exactement.
Bah, moi, j'avais proposé choix et puis finalement, je l'ai laissé à Sarah. Mais comme
Tu peux nous dire un mot de Pauline Ferrand-Prévot?
Non, mais Pauline, ce qu'elle a réalisé cette année, c'est tout simplement exceptionnel. Mmh. Ça fait 40 ans qu'on attend qu'un Français, qu'une Française gagne le tour, même si Jeannie Longo l'a remporté dans cette période-là, un peu plus tard, dans les années 89-90, je crois. Mais ce qu'a réussi Pauline, la trilogie est extraordinaire. C'est-à-dire championne olympique de VTT l'année dernière,
ouais,
vainqueur de Paris-Roubaix cette année, alors qu'elle avait quasiment jamais fait de grandes classiques, et quelques semaines plus tard, vainqueur du Tour de France. Et de quelle manière elle a remporté ce Tour de France? Donc franchement, c'est la championne française de l'année sans très aucune contestation possible. Ouais. Il aurait fallu que Loïs Boisson aille jusqu'en finale égale pour éventuellement la challenger, mais il n'y a personne qui lui arrive aujourd'hui
Pauline
à la cheville.
Elle est loin devant pour l'instant en termes de performance.
Et en plus, cette victoire dans le Tour de France lui a donné encore plus d'ambition. L'année prochaine, elle sera là. Elle a envie. C'était pas one shot.
Ouais.
Parce que certains coureurs,
c'est pour
champions.
Ça que je pense qu'elle a encore de très très belles années, parce que l'appétit vient en mangeant. Elle se rend compte de quoi elle est capable. Ouais. Et là, à mon avis, ça va.
Le seul truc, c'est qu'elle a dépassé la trentaine et que.
Mais moi, j'ai choisi Lynn Sevone, 41 ans, descendue de Saint-Moritz. Elle a 10 ans devant elle, potentiellement, ouais. Même si on sait que c'est un sport traumatisant. Oui, c'est pas évident. Mais le ski aussi.
Alors tu voulais nous parler de Lynn Sevone, du coup transition parfaite, Alizée.
Ouais, mais c'était pas le premier événement dont je voulais parler, mais
comme tu l'as évoqué, écoute, on y va.
Bah, Lynn Sevone, moi j'ai failli pleurer avec elle quand j'ai vu ses larmes sur le podium, victorieuse de la descente de Saint-Moritz, 5 ans après sa dernière course. Je trouve que c'est un exemple. C'est une extraterrestre en fait. Tout simplement, c'est un exemple de résilience. Quelles ont été les raisons pour lesquelles elle a voulu revenir alors qu'on pensait tous qu'elle avait quand même terminé sa carrière à 35 ans, ce qui était déjà un âge, on le sait, Flora,
puis
35 ans, toutes les deux, un âge très honorable. Et non, elle a voulu repousser les limites de son sport, revenir, passer la quarantaine, regagner une course de cette ampleur, en mettant une seconde à chacune de ses adversaires. Moi, je trouve ça juste fantastique. Et voilà, et ce podium, il m'a vraiment pris au trip. J'ai essayé de se mettre à sa place, d'essayer de retracer ce parcours avec cette première partie de carrière déjà complètement incroyable. Et là, elle arrive, elle revient. Et au bout de ça, quoi, deuxième ou troisième course? Deuxième course.
Elle en avait un petit peu refait auparavant, mais oui, c'est ça. Troisième course de la
Année. La prouesse physique et mentale, pour moi, est tout simplement hors du commun.
Et c'est une championne qui, à la différence de ce dont on va parler tout à l'heure, avec ce match truqué en tennis.
la bataille des sexes qui nous attend là.
Je ne voyais pas où tu voulais en venir.
Elle a un jour voulu se bagarrer avec les garçons. Elle voulait faire une descente homme. Mmh. On ne l'a pas autorisée à le faire. Mais elle ne voulait pas qu'on raccourcisse les bosses, qu'on mette des virages.
Mais je ne pense pas que Sabalenka ait voulu raccourcir les bosses.
Comment elle a pu l'accepter?
Alors, on fera le débat tout à l'heure sur la bataille des sexes en fin d'émission. Mais a priori, on est tous convaincus par évidemment la victoire de Lynn Sevone et son retour au plus haut niveau.
Et on espère qu'elle sera championne olympique dans quelques
semaines. C'est ça aussi, c'est qu'il y aura cette histoire qui va se poursuivre.
Ma curiosité, c'est jusqu'où elle va aller, parce qu'elle a quand même 41 ans. À un moment donné, elle va forcément.
Alors, elle s'arrête à la fin de la saison, ça c'est sûr. Elle s'arrête sur les Jeux Olympiques. Elle s'arrête
et
sur
elle
cette descente.
Elle reprend dans 5 ans.
Elle s'arrête sur cette descente de Cortina qui.
Elle l'a déjà annoncé.
Qui est une course particulière pour elle, parce que c'est là où elle a battu son record, c'est là où elle a remporté sa première épreuve de Coupe du Monde. Donc, elle voulait vraiment terminer en beauté, au sommet.
Elle annonce la couleur. C'est vraiment un signal. Très très fort qu'elle envoie, et elle l'envoie tellement rapidement après sa reprise, c'est ça qui m'impressionne.
Et ce sera l'une des attractions évidemment de ces Jeux Olympiques que vous suivrez sur RMC avec Christophe Cessieux notamment.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Flora Moussi. Il est 10h30 sur RMC. On continue de remonter le temps et l'année 2025 avec nos GG. On revient sur les événements qui vous ont le plus marqué cette année. Christophe Cessieux, Fred Weiss, Alizé Cornet. Vous nous parliez tout à l'heure du PSG qui a remporté la Ligue des Champions, de Pauline Ferrand-Prévot, vainqueur du Tour de France, du duel aussi entre Tadej Pogacar et Mathieu Van Der Poel sur Paris-Roubaix. On continue de regarder dans le rétro, sans oublier Lynn Seven, évidemment. Chris, quel était ton deuxième événement le plus marquant de cette année 2025?
Alors, vous vous souvenez certainement de la petite phrase restée célèbre du footballeur anglais Gary Lineker, qui dans les années 80 disait que le football est un jeu qui se joue à 11 contre 11 et où à la fin c'est toujours l'Allemagne qui gagne.
Ouais.
Eh bien, en rugby, on pourrait dire un peu la même chose du Stade Toulousain, par exemple. Cet épouvantail de l'Ovalie de France qui, depuis des décennies, ruine systématiquement tous les mois de juin les espoirs des clubs rivaux qui rêvent de toucher le fameux bout de bois, ce bouclier de Brennus qui récompense un champion de France, mais qui ne font la plupart du temps que de le toucher du bout de l'œil, parce que c'est la propriété exclusive de ce club toulousain qui en juin dernier s'est donc adjugé un 24e Brennus. Ça vous pose un club et ça fait surtout 10 de plus que son dauphin, le Stade Français, qui fait un peu rikiki avec ses 14 titres seulement. Alors on pourrait se lasser de ces finales où l'on connaît le vainqueur avant même que le match ne commence. D'ailleurs, moi, l'été dernier, je vais vous faire un aveu. Un an après la mémorable rouste infligée par ce même Stade Toulousain à l'UBB, qu'on avait retrouvé éparpillé aux quatre points de Paris par façon puzzle, hein, comme disaient les tontons flingueurs, battu 59-3, eh bien, je m'étais dit, cette fois, je passe mon tour. Ben non, j'irai pas à la finale. J'ai une énorme teuf. Et je préfère aller faire la fête plutôt que de voir encore une boucherie de rugby. Je regarderai la fin de ce match sur mon téléphone. C'est ce qu'on appelle puer le rugby. On appelle sentir vraiment les choses, les voir venir, un peu comme Denis lorsqu'il parie sur un match. On sait qu'il parie toujours sur le match nul à la mi-temps, ça n'arrive jamais, sauf les fois où il ne parie pas. Et donc, avec mon flair de chien truffier, j'ai réussi à rater la finale du siècle. Faut le faire. Un match dingue où il a fallu attendre la fin de la prolongation pour que finalement l'adage de Gary Lineker se vérifie et que Toulouse finisse par s'imposer 39-33. Ça a été un match dingue. Figurez-vous qu'à la fête à laquelle j'étais, tout le monde était sur le canapé, tout le monde squattait sur le canapé, personne bouffait le gâteau. Tout le monde était là à regarder la fin de cette finale. Ça m'apprendra à accepter des fêtes un soir de finale, car même si Toulouse gagne toujours à la fin, parfois ses adversaires savent lui donner du fil à retordre. Et avis à tous mes copains, le 27 juin prochain, je ne suis pas dispo. Je bosse, j'ai
déjà jeté.
Et je serai inflexible sur ce coup-là.
On verra si tu tiens cette résolution. Chris, là, tu avais eu en tout cas ton scénario dont tu parlais lors des finales et qui est si
voilà,
important.
Voilà, la finale, la vraie, mais c'est vrai que c'est pas toujours le cas. L'année précédente, l'UBB n'avait pas existé. Et puis cette année, c'est vrai qu'ils se sont vraiment renforcés et ils ont donné du fil à retordre. Mais bon, à la fin, c'est toujours Toulouse qui gagne. Mais sait-on jamais, peut-être qu'un jour, Bordeaux réussira, ou La Rochelle, ou Toulon.
Il y a des concurrents, en tout cas. Bon, vous êtes convaincu, Fred, Alizé, encore une fois, par.
De pas aller à des fêtes quand il y a un gros match.
Ouais,
ça vous est arrivé, ça t'arrive de louper des gros matchs pour aller faire la fête?
Non.
Ça
n'existe pas au basket. On a eu une rigueur un petit peu dans les
entraînements. Vous jouez tous les jours. Donc, toi, tu ne fais jamais la fête.
Moi, je ne fais pas la fête.
Bah,
le basket est au-dessus, tu comprends.
Je n'ai pas d'amis. C'est normal, vu comme tu leur parles.
Ah ouais, c'est ça. Pose-toi les bonnes questions, Fred.
Mais merci beaucoup. Je prends très, très bien.
T'es content d'être venu ce matin.
Ouais, j'ai bien fait de venir. Oui, j'étais regardé tout de suite, que je pensais que tu serais la prochaine.
Alizé, tu nous as parlé de Lynn Seven tout à l'heure. Quel est ton deuxième moment marquant? Ou peut-être qu'il était le premier, d'ailleurs.
Alors, moi, j'ai choisi un événement qui s'est passé pendant Roland-Garros, mais non, ce n'est pas la finale de Roland-Garros. Bien,
c'est un peu dommage, c'était une belle finale quand même.
Oui.
Ah oui.
C'est une très belle finale, mais justement, j'en parlerai à la fin de mon petit exposé. Moi, ce qui m'a beaucoup ému, beaucoup touché, c'est l'hommage rendu par le tournoi de Roland-Garros à Rafael Nadal pour la fin de sa carrière. J'étais sur place. J'ai eu la chance d'être sur place, de recevoir mon petit t-shirt avec le Merci Rafa dessus, de voir les tribunes s'orner d'un petit dessin en l'hommage de Rafa et de cette cérémonie très simple, sobre, mais en même temps à son image. très vrai de son discours français où on se demande après toutes ces années passées en France comment ça se fait qu'il parle pas un petit peu mieux français. Il a quand même un accent à couper au couteau. On se demande même s'il comprend ce qu'il dit, mais ça reste quand même très émouvant.
Parle français comme une vache anglaise. Un peu.
Et puis voilà, tout son staff, sa famille, son entourage réuni dans les tribunes, et il y avait vraiment une émotion palpable qui a touché beaucoup de monde, que ce soit dans le stade et même les téléspectateurs devant leur télé. Et puis alors moi, il y a eu vraiment un moment au-dessus de tous les autres qui m'a transportée, c'est quand le Big Four s'est retrouvé réuni sur le court avec l'arrivée de Andy Murray, Novak Djokovic et Roger Federer qui sont arrivés avec une musique bien à propos sur le court. Et là on a vu ce Big Four réuni, on a senti qu'ils savaient pas trop quoi faire, il y avait une sorte de petit moment en suspens, mais en fait toute la symbolique du moment moi m'a vraiment arraché une larme, parce que je me suis dit ça y est, c'est la fin d'une ère, ou presque. Il reste plus que Novak Djokovic parmi ses quatre guerriers, ses quatre champions. Mais au final, d'ici un ou deux ans, alors on ne sait pas combien de temps Novak Djokovic va jouer, mais ça risque d'être la fin définitive de cette ère incroyable. Et moi, ce que je retiens aussi de ce Roland-Garros, c'est aussi la symbolique de cette finale entre Carlos Alcaraz et Yannick Sinner. Seulement 15 jours plus tard, 15 jours après cet hommage, finalement, comme si ces deux-là, cette nouvelle génération avait envie de dire « Ouais, c'est la fin d'une ère, mais regardez ce qui vous attend, regardez ce qu'on peut vous produire sur le court ». Et ces deux-là, du haut de leurs 22-23 ans, ont livré une finale historique, hors du commun, anthologique. Et c'est vrai que ça faisait comme une sorte de passage de témoin, finalement, entre cet hommage de Rafael Nadal et cette finale de Roland-Garros que personne ne pourra jamais oublier. J'ai trouvé ça très beau. J'ai trouvé que ça a donné une quinzaine en plus, avec, c'est vrai, l'épopée de Loïs Boisson par-dessus le tas, mais que ça donnait une quinzaine très émouvante. Et voilà, un passage de relais entre l'ancienne et la nouvelle génération qui, moi, ne m'a pas laissé indifférente.
Et c'est vrai que pendant très longtemps, on se disait, pourvu qu'ils n'arrêtent pas, pourvu que les trois continuent, parce que
on avait peur du feed.
On
ne sentait
pas la next gen, on ne la sentait pas.
Et maintenant, on a hâte de voir ce que la next gen va nous réserver.
On a surtout hâte de voir s'il y en a un qui peut venir s'immiscer dans la bagarre et devenir le Djokovic.
On a un sacré duo au sommet.
Nadal et Federer, quoi. Mais je ne sais pas s'il y en aura un capable de rentrer dans
la. On aimerait bien que le duo devienne un trio, voire même un quatuor, et d'avoir un petit peu plus.
Qui viendrait se mêler à la bagarre.
Pour l'instant, ils ne laissent pas leur part du gâteau à qui que ce soit. Et non. Je pense que ça va être très dur pour le troisième de se frayer un chemin. Mais on a hâte de voir ce que l'avenir nous réserve. Et effectivement, c'est très juste, Christophe. On avait peur de cette fin de domination de la part du Big Three et du Big Four. Mais là, au final, on est juste excité de ce qui nous attend dans le tennis masculin.
Fred, l'événement marquant pour toi, l'autre, tu nous as parlé du PSG en football, en Ligue des Champions.
D'Indiana. Moi, je vais rester sur Paris, et je vais rester sur du basket, évidemment. On a eu un sujet tarte à la crème avec Alizé, qui commence par un truc et finalement on finit par d'autres trucs. Moi, je vais rester constant dans ce dont je vais parler. Le basket. Le basket, c'est pour moi, vous le savez, un sport très important. Et voir un club.
Le mec
comme...
est monomaniaque, quoi, tu vois.
j'ai parlé de foot tout à l'heure. Par exemple, tu as parlé de cyclisme et de rugby. T'es deux sports.
Monomaniaque. Tu l'as bien écouté sur le deuxième sujet.
Non, j'écoutais pas vraiment. Le Paris Basketball a gagné son premier titre de championnat de France contre Monaco, qui était censé être l'ogre absolu, qui avait un budget assez incroyable. Et on a trouvé une équipe assez fantastique du côté du Paris Basketball. Il faut se rappeler qu'en 2018, cette équipe est créée avec les droits sportifs de Toulon, donc qui commence en Pro B, mais il y a tout un chemin à faire. Intégrer une équipe qui vient de nulle part, arriver à avoir des fans, des supporters, créer quelque chose à Paris, ça semblait assez impossible au départ. Ça jouait à la Halle Carpentier pour commencer, donc il faut quand même se dire d'où ils sont partis. Oui, ça sent le basket, mais c'est quand même à old school. Donc ça a progressé, ça a travaillé. Des vrais supporters sont venus. Et on est arrivé au summum de ce que j'ai vu pour l'instant au Paris Basketball l'année dernière. C'est-à-dire que l'année dernière, quand on parlait de basket en Europe, tout le monde citait le Paris Basketball. En Espagne, les coachs disaient l'équipe qui joue le mieux au basket en Europe actuellement, c'est le Paris Basketball. Donc on a vu quelque chose d'assez extraordinaire l'année dernière. On parle des TJ Short et de Nadir Ifi, évidemment, qui seront au All-Star Game d'ailleurs ce dimanche.
Mais commenteras pour RMC.
Exactement, mais avec seulement des points, parce qu'il y a des matchs de je sais plus quel sport. C'était une vraie fierté de se dire que on a réussi à implanter enfin. Il y a eu des tentatives hein, de basket à Paris. Là, je crois qu'on l'a vraiment implanté. On a une salle dédiée à ça, la Adidas Arena. J'étais super content d'être là. Une finale en 5 matchs, à la fin du fin. Et c'était franchement magnifique à voir. Un plaisir pour les supporters. Et une création de clubs et de supporters, c'est quand même très difficile à faire. Oui. Et pour l'instant, ils l'ont fait, les Parisiens.
Le seul problème du basket en France, c'est que tu peux tenir une saison et que derrière tu te fais piller et tu es obligé de tout recommencer à zéro.
C'est vrai, je trouve ça
d'une tristesse incommensurable.
La pérennité d'une équipe.
Tu peux pas. Bah bon, après c'est un peu la même chose dans le foot, mis à part le PSG. Mais aujourd'hui, on a tellement peu d'argent dans le foot en France et dans ces sports comme ça. Alors le rugby, de son côté, a réussi à faire le plus beau championnat,
le meilleur championnat
domestique au monde.
Je peux me permettre de dire quelque chose sans que ce soit une attaque.
Vous vous faites piller.
Sans que ce soit une attaque et vraiment ne le prend pas comme tel. Il faut se rendre compte que personne joue au rugby dans le monde. Ouais. Et que forcément, nous, on est en concurrence avec beaucoup plus de pays. Qu'on a un grand frère qui s'appelle la NBA.
Je suis d'accord.
Et c'est très compliqué de
rivaliser. Je suis d'accord qu'il n'y a personne qui joue au rugby, mais quand tu regardes le championnat de France de rugby, t'as toutes les stars de ce sport, même aussi minime que. Aussi lilliputien.
Non, mais ce que je veux dire.
Aussi lilliputien que.
À l'échelle mondiale, c'est lilliputien. Oui.
Le problème, c'est qu'en France, tu vois les stars planétaires de ce sport. Pour voir les stars planétaires du
planétaire, c'est un grand mot.
Planétaire.
C'est le cas. C'est factuel.
En l'occurrence, c'est comme ça. Vous, il faut se lever à 3h du matin pour les voir. Donc, je suis très heureux que le basket existe et que Paris ait fait cette saison. Mais voilà, quoi, ça n'aura duré qu'une saison.
Ça, par contre,
c'est l'histoire de la
cité. Mais c'était important de revenir dessus. Merci, Fred. On a David qui est avec nous au 32-16. Salut, David.
Oui, bonjour à tous.
Alors, sur quoi tu voulais revenir, toi? Qu'est-ce qui t'a marqué dans cette année 2025?
Moi, le plus, c'est. Je ne sais pas si vous en avez parlé, parce que je n'ai pas pris l'émission à 9h. Hein, j'étais pas levé, donc
un samedi matin, on peut comprendre, effectivement.
Ouais, je suis en vacances.
Voilà, mais
donc,
dis-nous tout.
C'est quand même Johann Zarco qui gagne le Grand Prix de France. Quoi.
Ah, on n'en a pas parlé, donc tu fais bien de l'évoquer.
Johann Zarco, quand même, c'est incroyable ça.
Ouais.
Ça faisait quand même que 71 ans que les Français n'avaient pas gagné. Et ironie du truc, c'est que je vais à tous les Grands Prix de France tous les ans, et cette année, j'étais dans un avion et j'ai pas pu y aller.
Bah, t'as fait une Christophe,
et donc,
là.
Et donc, un Français a gagné, et tous mes copains me disent, ne viens plus, parce que...
C'est mieux quand tu viens pas.
Après, c'est pas super rentable, en fait, s'il doit prendre l'avion à chaque fois qu'il y a un Grand Prix, c'est compliqué, quoi.
C'est vrai.
Ouais, non, mais bon, je revenais de vacances, c'était un peu limite, je revenais à 11h, j'avais pas le temps de prendre la moto et d'aller au Mans, c'est dommage, mais c'était pas presque. Mm. Et t'as fait, je sais pas, 25 ans que j'y vais, c'est pas de bol, quoi.
Ouais. Mais ça marque, c'est vrai, t'as raison, c'est l'un des événements de l'année aussi, un Français qui gagne un Grand Prix de moto, c'est dans la catégorie Rennes,
sur
dans des conditions très particulières.
Ouais, bien sûr. Ouais.
Ce départ un peu tronqué, changement de pneus, on savait pas s'il allait pleuvoir, s'il allait pas pleuvoir, et puis Zarco qui a été énorme, qui a pris des risques, qui a fait les bons choix, et qui est allé s'imposer devant tous les cadors, alors qu'il a pas la moto la plus performante. De tout. Il n'a pas une Ducati.
Encore une fois, là, je te rejoins, la force du scénario aussi dans ce genre
mais voilà, c'est ça qui
dans
fait.
Dans ce genre d'événements sportifs. Merci beaucoup, David, d'avoir été avec nous ce matin.